Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce soir, en quelques mots tout simples, nous nous approchons de notre Seigneur à travers le témoignage de ceux qui nous ont évangélisés, de ceux qui ont été touchés par la pleine vérité et la pleine lumière sur Dieu, comme saint Denis. Vous ne vous étonnerez pas qu'il vaut mieux tenir que Denis était bien à l'aéropage et a bien entendu saint Paul, de la même manière que ses compagnons aussi étaient avec lui, l'ont rejoint dans cet apostolat où ils ont été envoyés en Europe, avec aussi un saint de Rouen, de la ville de Rouen, que nous avons fêté cette semaine et dont j'oublie le nom. Ces hommes, ces femmes aussi, qui étaient bien présentes, ont fortement donné la bonne nouvelle aux communautés juives qui se trouvaient à travers l'Empire. Et quand ils ont annoncé aux petites communautés juives des grandes villes romaines et de l'Empire romain que le Messie était arrivé, quand certains juifs résistaient à l'étonnante annonce d'un Messie fils de Dieu, eh bien ils se tournaient vers les païens, vers les peuples non juifs, pour leur donner cette même nouvelle, comme saint Paul l'a fait. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'apôtre des gentils. Alors que veut dire gentil ? C'est la gens. La gens, c'est l'engendrement, le genre de nos jours, comme on dirait, eh bien, qui fait la génération d'un peuple. Eh bien, les gentils, dans la langue hébraïque, les goïms ou un goï, ça veut dire ceux qui sont de la gentilité, ceux qui ne sont pas du peuple juif, du peuple élu. Et donc, cette extraordinaire venue du Sauveur des Juifs les a épanouis et, comme dit saint Paul, a brisé le mur de méfiance, de haine, il dit même, entre juifs et non-juifs, où il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni hommes, ni femmes, ni hommes libres, ni esclaves, mais il n'y a plus que des âmes sauvées par l'agneau de Dieu. Et cette bonne nouvelle, elle est profondément présente dans le fait que des peuples très différents, aux cultures très différentes, ont été touchés par cette grâce. Et comme disait saint François Xavier, qui lui était plutôt en Asie, quand il ne parlait pas de la Vierge Marie, il avait moins de conversion. Les prédicateurs, les missionnaires venaient auprès de peuples aux traditions très diverses, les druides en Gaule, ou en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, les cultes du soleil, ou les cultes de la forêt, de la maman forêt, ou on dirait de nos jours de la maman planète, de Gaïa, et qui faisaient une sorte de dieu partout, en ayant peur des arbres, en ayant peur des rochers, et en assimilant la divinité aux choses qui les entouraient. Voilà une libération particulière que nous avons eue, parce qu'actuellement, si j'étais druide, je devrais couper du buis, mais aussi couper des gorges, de temps en temps, il faisait un petit sacrifice humain, avec des dolmens, avec des menhirs, et j'aurais peur des forces telluriques et magnétiques. Comme de nos jours, ces religions superstitieuses reviennent, puisque nous sommes désorientés, avec des pierres magiques, des pierres qui assainissent votre appartement, qui prennent les énergies négatives, qui changent de couleur, et qui vous permettent de payer 50 euros, 70 euros à des escrocs. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette disparition de la superstition, c'est le vrai Dieu, qui est amour et qui n'est pas là pour nous diviser par rapport à nos origines et par rapport à nos cultures, mais qui va nous unir, et qui va nous unir dans ce qui est concret et naturel et véritable, comme par exemple le respect de l'union d'un homme et d'une femme, les enfants, de nous arracher à la répudiation, de nous arracher à la polygamie, de nous arracher au sacrifice des enfants. Vous avez une tribu amazonienne qui a fait l'actualité il y a environ 1 à 2 ans, parce qu'un couple protestant s'était approché de cette tribu très, très éloignée, et petit à petit, ayant ouvert un dispensaire juste à côté d'eux, avait acquis un certain crédit, conquis leur confiance, et petit à petit, ils les ont aidés, et ils ont pu entrer dans leur village. Mais ils se sont aperçus, petit à petit, en effet, qu'ils avaient un nombre d'environ 600 sujets d'un roi qui était en fait un tyran depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, car il y avait une coutume absolument impitoyable qui était de ne pas augmenter le nombre de cette tribu, bien qu'ils aient des hectares et des hectares de forêt. Et s'il y avait, par rapport aux morts, pas assez de décès dans la tribu, eh bien, par rapport aux naissances, on enterrait vivants les nouveaux enfants, de peur de rendre stérile une femme qu'on avorterait. Il fallait que l'enfant naisse, tout naturellement, et ensuite, on le tuait. Ils avaient aussi une autre superstition qui est de considérer que les jumeaux sont une manifestation des esprits de la forêt. Et donc, quand ils s'aperçoivent qu'il y a de vrais jumeaux, eh bien, ils les laissent mourir de faim et ils les excluent de la tribu. Alors, ce couple s'est un peu inquiété de ces pratiques un peu cruelles et en ont parlé aux autorités brésiliennes jusqu'au Parlement. Et les ethnologues se posaient la question de savoir si on allait leur interdire d'enterrer vivant leur bébé. Eh bien, voyez-vous, tout cela est bien éloigné de chez nous, et pourtant, nous avons eu 223 000 avortements en 2018. Tout cela parce qu'il y avait des femmes en détresse, ou des couples ennuyés, ou des hommes qui n'en voulaient pas, ou une certaine disposition sociale qui fait que l'arrivée de l'enfant doit être évitée. Alors, notre responsabilité, ce n'est pas de faire de la morale au sens moralisme, mais c'est d'accompagner en vérité et par bonne nouvelle, comme Saint Denis et ses compagnons, en leur disant de se libérer de la crainte et de la peur. Mais nous ne pouvons être efficaces que si nous-mêmes, nous sommes assez présents pour recueillir ces enfants, pour les aider. Et nous avons bien vu que dimanche dernier, il y a eu un souffle particulier, alors que les médias, ou même les évêques, ne nous avaient pas particulièrement donné de signes de mobilisation très très précis, et pourtant de toute la France est venu au moins, c'est pas un problème de nombre, c'est une réalité, plus de 300 000 personnes se sont réunies. Pour quoi? Pour un enfant avec une paternité qui n'est pas remplaçable par un tonton, par une tante, par une grand-mère, comme dirait un ministre de notre gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il y a fondamentalement pour nous? c'est le devoir d'accueillir en vérité, comme nous avons accueilli quelque chose de bouleversant pour nos cultures anciennes, que Dieu s'est fait homme. Que ce petit enfant, Jésus, est Dieu. Que la Vierge Marie a conçu miraculeusement son Créateur. Le 11 octobre dernier, nous fêtions la maternité divine de la Vierge Marie. Parce qu'elle a engendré un être qui est Dieu dans son éternité, la parole éternelle du Père, et en même temps, avec un corps et une âme, un homme. Et parce que Jésus n'est pas deux personnes, mais une seule personne, avec deux êtres naturels, l'être éternel, immortel, spirituel, et l'être, un être humain, avec un corps et une âme, je conçois que pendant des siècles, jusqu'en 431 à Éphèse, on se soit disputé. Mais nous sommes en 2019. Et la divinité du Christ est bien claire et nette, heureusement pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la Vierge Marie met au monde une personne qui unit sans confusion et sans fusion la nature divine et la nature humaine. Et Dieu nous prouve par là que nous ne sommes pas des animaux issus de la forêt amazonienne, mais que nous sommes des enfants d'un Dieu bien au-delà de la création matérielle et qui est un Père qui aime ses enfants et qui aime les anges qui sont de purs esprits. Nous fêtions les anges gardiens le 2 octobre. Chacun d'entre nous a un ange gardien à ses côtés en ce moment. Nous remercions Saint-Denis et tous les missionnaires, ces hommes et ces femmes qui nous ont fait le catéchisme depuis des siècles, parce qu'ils nous libèrent de la superstition. Ils nous libèrent du péché, même s'il est exigeant de vivre dans la vertu, la justice. Il y a quelque chose qui nous libère. D'être attentif à notre devoir et pas seulement à nos droits. Alors, ce soir, eh bien, demandons au Christ, demandons à la Vierge Marie, demandons à Saint Joseph, demandons aux anges d'être dans la gratitude, de croire que Dieu n'est pas la planète Terre ou les océans ou une forêt. Mais que Dieu est un être plein d'intelligence et de bonté, un Père qui s'est manifesté auprès de nous en un homme plein de bonté, de finesse et d'intelligence. Notre frère aîné, l'agneau de Dieu et l'innocent. Et c'est lui qui nous nourrit. Et c'est lui qui nous encourage, parce que la vie terrestre aura sa fin, et nous serons jugés par lui, le cœur sacré de Jésus, qui est venu exprès pour nous dans cette vie terrestre. C'est lui qui va nous juger. On peut peut-être avoir peur du Tout-Puissant, mais lorsque nous croyons que Dieu s'est fait homme, et qu'il a demandé à sa mère de devenir notre mère, de nous aimer comme ses propres enfants, comme elle l'a montré à Fatima il y a 102 ans, en 1917, au Portugal. Eh bien, tout cela doit nous conforter et nous consoler et nous fortifier pour que nous puissions rayonner de cette espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.